Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. L'émission est préparée par Corinne Amar, Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre. Elle est réalisée par Lise-Marie Barré. Avec ce soir aux manettes, Pierrick Charles.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Ce soir, avec Basse Metz. En écho à sa très belle recherche photographique sur le paysage, Vincent Leroux cite ces mots de Ernst Cassirer. « Je peux traverser un paysage et être sensible à ses charmes. Je peux jouir de la clémence de l'air, de la fraîcheur des prairies, mais ma disposition d'esprit peut alors connaître un changement soudain. Je commence à en former un tableau. Je suis maintenant entré dans un nouvel univers, l'univers non plus des choses vivantes, mais des formes vivantes. Je vis non plus dans la réalité immédiate des choses, mais dans le rythme des formes spatiales, dans l'harmonie et le contraste des couleurs, dans l'équilibre de l'ombre et de la lumière. L'expérience esthétique consiste à s'absorber ainsi dans l'aspect dynamique de la forme. Formes vivantes et choses vivantes, il est possible que ces questions vous parlent, Basse Metz. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir.
On va commencer par parler de peinture et de paysage.
Je crois que le paysage moderne, je crois vraiment qu'il naît à la fin du 18e siècle, enfin dans les années, on va dire, 1760-70, quand on commence à justement pouvoir aller se promener dans la nature. Parce qu'avant, on s'y promène pas. C'est la nature, elle est dangereuse, elle est pas agréable, elle est fatigante. Les gens qui marchent sont les paysans ou sont les pèlerins, mais les gens bien ne marchent pas, ils sont tout à cheval ou en calèche. Regardez les manuels de savoir-vivre du 17e siècle, vous verrez que les gens qui marchent sont ou les pauvres ou les pèlerins. Mais pas des gens vraiment recommandables. Enfin, les pèlerins, si on veut. Avant, et au 15e siècle, la nature est un lieu profondément inquiétant. Parce que c'est un lieu où on ne sait pas très bien ce qu'on rencontrera. Au procès de Jeanne d'Arc, c'est quand même 1431 ou 1435, je ne sais plus très bien, un des reproches qu'on a fait à Jeanne d'Arc, c'est d'avoir dansé sous l'arbre au fée. Hein, c'est-à-dire que quand on va dans la forêt, on ne sait pas ce qu'on rencontrera dans la forêt. On peut rencontrer des fées, on peut rencontrer le diable, on peut rencontrer des séductions, etc. Je ne parle même pas des loups, hein, je parle simplement de ce qu'on imaginait dans la forêt. La forêt, c'est le lieu de l'irrégularité, de l'incontrôlable, de l'immaîtrisable. Et donc la nature, on ne s'y promène pas. Non seulement physiquement, à cause des voleurs, etc., des détrousseurs, mais à cause de ce qu'on y craint. On rencontre des centaures, on rencontre des monstres épouvantables. Donc on n'y va pas.
La voix de Daniel Arras pour commencer cet entretien, Basse Metz, finalement, qui fait commencer le paysage moderne avec le fait de n'avoir plus peur de se promener et dans la nature et dans la forêt. Est-ce que votre propre rapport au paysage et peut-être le début ou les origines de votre travail actuel se situe dans des promenades?
Je pense qu'avant la promenade, il y a la figuration. Le mot paysage apparaît pour la première fois dans le XVIe siècle, pas pour parler de la réalité physique, mais pour parler d'un nouveau genre dans la peinture, où le peintre commence à dessiner des fenêtres et quelque part découpe une sorte de liberté par rapport à la mission qu'ils avaient, et dans laquelle ils font apparaître une sorte de vue sur les alentours. Et c'est intéressant de comprendre que le mot paysage, du coup, au début, ne parlait pas de la réalité qui nous entoure, mais d'une vision de cette réalité. Et du coup, je pense que à partir de cela, on comprend que profondément, le paysage est une vision des choses et pas une réalité physique. C'est aussi une organisation des choses, parce que cette invention du paysage, si on veut, dans le XVIe siècle, il est directement lié à l'invention de la perspective en Italie. C'est le peintre dans les Pays-Bas, le nord de la Belgique et l'Hollande, aussi en Allemagne, qui applique cette nouvelle invention, cette perspective, pour organiser les éléments de la nature.
Alors vous, ça veut dire que votre propre découverte ou le début de votre rapport au paysage, vous le rattacheriez davantage à la connaissance de cette peinture, à cette prise de liberté des peintres qui font figurer l'au-delà de la scène par la fenêtre ?
À l'organisation des éléments de la nature. Moi, je pense que le paysage, c'est une façon de voir la réalité et de le réorganiser. Et je pense que dans la peinture, c'est fait d'une façon statique. C'est la première fois qu'on l'essaye. Après, évidemment, il y a un développement jusqu'au cinéma qui fait apparaître d'autres types de paysages. Mais je pense qu'à l'époque, c'était toujours la même mission. C'était 10 ou 12 tableaux religieux qu'il fallait faire à chaque fois de nouveau. Du coup, j'imagine que ces peintres, ils avaient envie d'explorer plus et justement de découper une partie qui leur appartenait. Et j'aime bien que ce paysage, il est lié à la création d'une indépendance par rapport à la commande, qu'on retrouve nous aussi dans les projets qu'on fait.
Mais vous, Basmets, est-ce que il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport particulier à la nature qui, je ne sais pas, serait l'origine du travail que vous menez aujourd'hui ?
C'est une question difficile. Moi, je pense que je répondrai par l'intuition. Je pense que pour moi, le paysage, c'est une sorte d'instinct animalier qu'on essaye de suppresser, mais qui est toujours là, et de savoir où est l'eau, de comprendre la topographie instinctivement. Pour moi, quand je me balade cet été, j'étais dans les parcs nationaux aux États-Unis, j'aime bien ce moment où on comprend presque corporellement le lieu où on est. Après, on essaye de produire ça dans nos projets, d'une façon intellectuelle, mais pour moi, il y a un côté où on sent, voilà.
Quand vous dites on comprend physiquement, ça veut dire que aussi on localise dans ce qu'on observe, là où on va pouvoir subvenir à nos besoins. Vous parlez de la localisation de l'eau, peut-être, je ne sais pas, ça veut dire que pour vous, avoir un rapport avec le paysage, c'est être aussi en mesure de repérer un abri, regarder s'il y a un arbre, etc., etc. Ce serait ça, là, notre compréhension ?
Oui, sans en vouloir faire une théorie, mais je pense que les villes dans lesquelles on se sent bien automatiquement sont des villes qui créent cette relation avec sa morphologie, avec sa topographie. Par exemple, à Rome, la ville qui s'est construite sur les 7 collines, on le sent toujours aujourd'hui. Même à Paris, la plupart des avenues d'Haussmann sont ou perpendiculaires aux courbes de niveau ou parallèles. Par exemple, vous prenez la rue Saint-Michel, on sent bien qu'on descend dans la vallée. Et j'aime bien ce mouvement aussi en vélo, que sous le monde, on pratique les paysages. Ce n'est plus un tableau, mais c'est quelque chose qu'on sent dans le mouvement.
C'est intéressant que vous parliez de Rome et de la façon d'être bâti selon ou avec ou presque dans ces collines, parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on sent. Mais moi, en tout cas, je ne me l'étais jamais figuré de cette manière-là. Vous pensez qu'on le sent comment en se promenant dans Rome ? Ça passe par quoi en termes de sensations ?
Par une sorte de repérage automatique. On se sent bien parce qu'on sait où on est. Et comme un animal dans la forêt, j'imagine. Je ne le sais pas, mais j'aime bien l'imaginer. Et je pense que c'est justement tout le problème du périurbain, où on ne sait plus où on est, il n'y a pas de repérage, il n'y a pas ce repérage automatique. Enfin, je ne pense pas qu'on se sent bien à New York parce qu'on comprend tout, mais on se sent bien parce qu'on a compris physiquement. Je pense vraiment qu'il y a... Il y a une compréhension qui est autre que la compréhension intellectuelle.
Je vous ai présenté comme un architecte du paysage. Parfois, on lit aussi architecte paysagiste. C'est bien ces deux choses qui dialoguent, architecture et paysage. On y reviendra peut-être, mais d'une part, vous vous présentez comment ? Et ça suppose que qu'est-ce qui est intervenu en premier lieu dans votre parcours, architecture ou paysagisme ?
Je pense que c'est intéressant parce que c'est une différence de langage. En anglais, on dit « landscape architect ». En néerlandais, on dit aussi « landschapsarchitect ». Du coup, on dit « l'architecte du paysage ».
Mais en mettant « paysage » avant « architecte » d'ailleurs, parce que c'est inversé. « Landscape » en premier.
C'est vrai. Mais ça, c'est lié à la langue. En français, ce serait difficile de dire « paysage architecte ». Mais c'est vrai que d'abord, on dit « paysage » et puis « architecte ». Et « paysagiste », peut-être aussi parce que je ne comprends pas complètement le mot. C'est tellement spécifique que je préfère m'appeler architecte du paysage, parce que je construis des paysages comme un architecte construit des bâtiments. Et dans mon parcours, en fait, dès le début, je voulais construire de l'espace public. J'avais envie j'avais beaucoup voyagé avec mes parents et j'aimais cette idée que les gens fabriquent des villes. Cette idée que tout ce qu'on voit a été conçu et construit. Et si on comprend ça profondément, on comprend que la réalité qu'on voit pourrait être différente. Et une fois qu'on comprend ça, la réalité devient assez instable.
Et il y a du désir possible de faire autrement qui arrive.
Oui, et du coup, on peut commencer à projeter. On n'est pas obligé d'accepter ce qu'on voit.
Ça en regardant par la fenêtre, oui. Un gros immeuble.
Et la tour Eiffel.
Et la tour Eiffel.
Et qu'on comprend que la tour Eiffel est là parce que quelqu'un l'a conçue et construite. Et du coup, seulement On comprend qu'on peut faire une sorte de hacking. On peut rentrer dans la logique. Et si on rentre dans la logique, on peut soudainement faire bousculer les choses. Et du coup, dès le début, j'avais cette envie
de
comprendre ça
public.
Et de faire de l'espace public, pas des bâtiments. Moi, j'aime beaucoup l'architecture. Évidemment, je travaille avec beaucoup d'architectes. Je suis un grand J'adore l'architecture, mais j'ai aucune envie de construire des bâtiments. C'est vraiment l'espace public, et du coup des parcs, et du coup des jardins, et du coup des autoroutes, ou tout ce qui est lié à ça. Mais vraiment une sorte de je reviens à la peinture, l'organisation de ce monde extérieur.
Quand vous dites que le premier lieu, ça a été de vouloir créer de l'espace public, et que vous affirmez que ça passe par la compréhension que quelqu'un l'a pensé avant nous, cet espace public, ça veut dire que vous en donnez quoi comme définition de l'espace public? On a essayé de définir le paysage en repassant par la peinture, mais l'espace public est un mot qui est très utilisé aujourd'hui. Pour essayer de lui donner de la précision dans son évocation, vous diriez quoi?
Je dirais qu'on est toujours dans la transformation de quelque chose. Et dans le paysage, on le comprend parce que...
Il y a la nature qui est quelque part.
Il y a les saisons, il y a la mort et la renaissance. Je veux dire, de toute façon, on est dans une pensée cyclique. Mais je pense encore plus que dans la création d'un bâtiment, on part toujours de l'existant. En fait, il y a Georges Descombes, un de mes professeurs, qui me disait il y a deux façons de voir les choses, ou deux façons de faire. Il y a faire comme un architecte, il construit, et il y a faire avec. Et il dit un psychologue, il fait avec les clients, il construit pas de rien, mais il fait avec l'objet ou le sujet qu'il a en face de lui. Et le paysiste aussi, il fait avec. On fait avec l'existant. On passe beaucoup de temps à comprendre le terrain, le pourquoi on en est là, et on essaye de presque comme un psychologue ou un médecin, on essaye de faire avec et de faire évoluer l'existant. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas de théorie de l'espace public, peut-être ça, mais c'est toujours comment cette situation existante peut évoluer vers autre chose. Il y a une sorte de devenir qui m'intéresse beaucoup. Du coup, ce qu'on fait n'est jamais terminé. On ajoute une étape, et on essaye de faire évoluer vers autre chose qui ensuite évoluera encore plus après nous.
Cela suppose, et vous le disiez tout à l'heure, qu'il faut hacker, c'est-à-dire vraiment rentrer dans le système et comprendre ce qui est existant. Ça passe par quoi? Lorsqu'on vous demande, Bassemetz, à vous et à votre équipe, de transformer un espace public, vous mettez quoi en place pour le comprendre, cet espace?
On fait une double approche. On fait une approche très dézoomée. Du coup, on travaille à l'agence sur des cartes, sur des photos aériennes, sur des cartes podologiques. On essaye de
voir de haut.
De voir de haut, mais de faire une sorte de lecture couche par couche et d'avoir une sorte de comme un X-ray, une sorte de compréhension de presque de la réalité physique, de quoi elle est faite, comment elle fonctionne.
Et comme après, quand on fait un carottage et qu'on a les différentes couches
voilà,
dans un sol.
Voilà, mais à une échelle assez grande. En fait, j'essaye de trouver la bonne échelle pour comprendre comment les différents éléments interagissent entre eux. Et ensuite, on va sur place. Et là, sur place, justement, on essaye de faire confiance à l'intuition, à comprendre comment sur place on sent les choses. Et du coup, il y a cette très grande échelle et cette échelle sur place qu'on garde jusqu'au bout et qui fait émerger justement... En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est révéler l'identité cachée peut-être de ce lieu. Mais du coup, en fait, parce que la plupart des erreurs se font sur le middle scale. Mais on essaye de garder
l'échelle
moyenne, parce que du coup, on peut se raconter, on peut se convaincre de tout. Mais si on garde la très grande échelle où on ne peut pas se tromper et l'échelle du site, on peut comprendre autrement la réalité.
À l'échelle du site, c'est-à-dire lorsqu'on imagine vous arpenter, par exemple, un espace public, vous le pratiquez aussi, vous en évaluez parfois des fonctionnalités. Vous êtes attentif à quoi, vous et votre équipe, vous notez quoi? Des odeurs, des circulations, des arrêts, des regroupements?
Oui, mais c'est aussi un moment où on note pas, c'est un moment où on est. Et on le voit le jour, la nuit, si c'est un espace public qui existe, on essaye de le pratiquer comme les autres, mais sans noter trop, justement de le comprendre d'une façon
sensible,
plus sensible, plus, je dis corporelle, je sais pas si ça existe, mais d'une autre intelligence. Et après, évidemment, ces deux échelles, ces deux approches convergent vers une idée, mais moi, je pense que à l'agence, on essaye de pas trop vite avoir une idée. Parce que nous tous architectes, on est tellement formés que dès qu'on a l'idée, on va convaincre tout le monde que l'idée est la bonne. Et c'est une sorte d'aberration de notre métier. Du coup, j'essaye d'attendre avec cette idée de faire des recherches, et j'adore les lectures, on appelle ça des lectures et pas des analyses, parce qu'on n'est pas scientifique, notre approche est plus sensible.
Qu'est-ce que vous appelez les lectures? Les lectures de cartes, des
images topographiques? Oui, on redessine, parce que même aujourd'hui on peut avoir toutes les cartes en vectoriel, mais on redessine tous les arbres, tous les bordures, toutes les courbes de niveau, l'hydrographie, c'est ce dessin. En fait, il y a une sorte d'action inexplicable, peut-être, entre la main et le cerveau, que les yeux observent ce que fait la main.
Il y a une compréhension qui arrive de là, dans le fait de redessiner aussi, peut-être le temps que vous prenez à faire ça, non ?
Quand la ligne est juste, on le sait. Quand on dessine, on sait que c'est la bonne ligne. Et bizarrement, ça crée des projets qui tiennent la route, heureusement.
On a évoqué donc ce rapport entre le paysage et puis ce que vous appelez la transformation progressive de l'espace public et le fameux faire avec. Parfois, vous devez faire avec des bâtiments, puisque dans ces espaces, il y a aussi du construit, pas toujours, mais parfois. Comment est-ce que vous les regardez? Comment vous les approchez? Vous disiez tout à l'heure, quand on arrive dans un espace, il faut le humer. Vous les sentez comment, les bâtiments qui arrivent dans cet espace à traiter?
Mais comme dans l'existant, il y a des opportunités et il y a des choses à corriger. Il y a des bâtiments, il y a de l'architecture qui est magnifique, du coup, qu'on essaye de jouer avec, de faire avec. Il y en a d'autres qu'on essaye peut-être de dissimuler un peu plus parce qu'ils n'apportent pas grand-chose à l'espace public. Récemment, on a fait un projet où justement les façades n'avaient pas la qualité de devenir la façade de la place. Du coup, on a planté beaucoup d'arbres pour dire l'identité, c'est la place même, et puis il y a les bâtiments autour. Tandis que dans un autre projet, on avait justement coupé les arbres pour mieux révéler les façades. Du coup, on fait une lecture de l'existant, et l'architecture fait partie de cette compréhension.
Parfois, vous traitez des espaces en les organisant comme le peintre organise la nature pour obtenir ce paysage fameux par la fenêtre. Je pense par exemple à ce que vous proposez en ce moment à Bordeaux, l'installation que vous proposez dans le hangar 14. C'est comme si vous aviez traité un bâtiment en le pensant comme un paysage. Qu'est-ce que ça veut dire, Basmet?
C'était un jeu, en fait. C'est un jeu qui avait commencé au Palais de Tokyo avec Philippe Areno. Je l'avais assisté avec la scénographie quand il avait fait son exposition. Et pendant la discussion, on se disait, mais en fait, le Palais Tokyo, 22 000 mètres carrés, ce n'est plus un bâtiment. C'est un paysage qui s'est glissé entre la Seine et la topographie. Et on a fait une lecture de ce bâtiment comme si c'était un paysage. Et du coup, on a dit, voilà, il y a la vallée, il y a la grotte, il y a les arbres. On a fait la lecture qu'on fait d'habitude pour un espace extérieur, on l'a fait pour le bâtiment. Et on a fait le même jeu à l'hangar 14, où on s'est dit, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est un paysage qui pense à tort qu'il est un bâtiment. Et du coup, il faut révéler l'identité paysagère de ce bâtiment. Et du coup, on s'est dit, les colonnes, parce qu'il y a plein de colonnes au rez-de-chaussée, c'est des arbres. Du coup, on a fait un plan d'arbres, et on a juste montré les colonnes. On a révélé le fleuve, parce qu'il y a une sorte de façade vitrée côté Garonne, qui suit la courbe de la Garonne. Et on s'est dit, en fait, c'est au lieu d'homogénéiser l'espace pour faire l'exposition, on va justement renforcer la différence entre la partie très claire côté Garonne, la partie obscure. Dans la partie obscure, on va mettre les vidéos. Dans la partie claire, on va mettre tous les espaces plus publics ou dédiés aux enfants. Et du coup, on a révélé cette identité imaginée, évidemment, paysagère. Et ensuite, on a fait venir 300 arbres. Pas pour créer une image, mais vraiment pour créer un parcours. Et du coup, les visiteurs vont méandrer entre ces arbres qui créent une sorte de décor dans lequel on organise toutes les expositions.
C'est ça, quand vous dites ce bâtiment qui pense à tort qu'il est un bâtiment alors qu'il est un paysage, c'est aussi intervenir sur notre future circulation, nous, êtres humains ou visiteurs. C'est-à-dire, nous, jusqu'à maintenant, on pense aussi que le hangar est un bâtiment. Dès lors que vous agissez dessus, est-ce que ça vient aussi agir sur la manière dont on va circuler à l'intérieur?
Ah bah vous allez voir, ce n'est plus un bâtiment. Là quand j'y étais hier, quand on entre, les 300 arbres, ils les mettent...
Donc on bouge dedans différemment.
Complètement. Et automatiquement. En fait, on fait appel à une sorte de relation avec le... Je pense que c'est quelque chose qui est dans nos gènes depuis des milliers d'années qu'on était obligé de bouger dans cette nature qu'on ne connaissait pas, qu'automatiquement on ne sait pas par où aller. Et du coup, on a créé une sorte de parcours qui reprend les contours de la Garonne. Et en installant ces 300 arbres, automatiquement, on prenait le même chemin. Bon, on va voir si c'est vrai. Encore une fois, c'est pas une théorie. Hein, on essaye, mais je pense que oui, on l'a transformé en paysage. Et du coup, on fait appel. On cherche pas l'escalier, on cherche pas la signalisation, mais on fait appel à une autre compréhension de l'espace.
Ce qui est assez intéressant, à des moments où l'espace public est pensé pour réguler des flux de personnes, empêcher des stationnements, parfois empêcher des attentes de personnes, ne pas laisser cours à la libre circulation des corps. Au contraire, beaucoup d'espaces publics aujourd'hui sont pensés comme des façons de contraindre les circulations. Là, vous proposez d'une certaine manière. Vous ouvrez la circulation. Et ensuite...
Mais souvent, dans nos projets ou dans nos commandes, la commande elle-même est assez sans intérêt. On me demande de faire 200 places de parking, un garage pour les vélos, un abri de bus. C'est toujours assez décevant quand on lit l'objet du concours ou de la mission. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'imaginer un paysage, une figure paysagère, une sorte d'organisation, si vous voulez, de l'espace qui permet toutes ces fonctions. Mais on ne part jamais
de la fonction,
parce que c'est juste sans aucun intérêt. Et du coup, on a fait une série de parkings. J'aime bien le parking parce que c'est tellement bête comme demande. C'est 5 mètres sur 2 mètres et demi, c'est toujours la même taille. La route fait 6 mètres, peut-être 7 mètres. Et du coup, on utilise le parking pour créer du paysage. Et c'est une sorte d'exercice de base que je trouve très intéressant. Et... voilà.
On connaît Central Park, mais le plus intéressant, ce sont les systèmes de parcs. C'est-à-dire, Homestead a développé dans plusieurs villes, et il reste deux exemples très convaincants, c'est Boston et Minneapolis, où en fait des successions de parcs constituent la structure de ville. Alors à Minneapolis aujourd'hui, c'est fantastique. Le système de parcs se développe en utilisant une partie du Mississippi, mais aussi des lacs. Et tout ceci ensemble fait un développé d'environ 30 km. C'est le monument de Minneapolis, selon moi. Bon, Gilles Tiberghien m'a expliqué, évidemment, l'origine de tout ce mouvement. C'était ces philosophes transcendentalistes américains comme Emerson et Thoreau. Et il y a un très grand naturalisme, mais un naturalisme pragmatique. Donc Homestead ne travaillait qu'avec des bois, des marais, des prairies, de l'eau, bien sûr, avec toujours une très grande conscience de ce qu'était la géographie, la nature, et jamais un système ornemental. Alors on s'en rend mal compte parce que, du fait de l'entretien, dans les périodes qui ont suivi, ces jardins ont été anglicisés, ils ont été banalisés, ornementalisés, si on veut. Ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est la puissance dimensionnelle de ces interventions. C'est-à-dire, on a développé ces grandes villes au XIXe siècle avec un optimisme invraisemblable. Vous imaginez quand même un parc de 30 km de long qui organise une ville de 150 000 habitants. Enfin, c'est une manière d'installer une ville dans un territoire qu'on juge aujourd'hui d'une immense puissance. On ne fait plus cela. Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Sinon, notre manque d'optimisme.
La voix de Michel Devigne qui parle de Frédéric Lowe Olmsted Bass-Metz et qui dit « c'est le parc qui organise la ville » en parlant de Central Park. Et je trouve aussi que ce qui est intéressant à mettre en relation avec votre propre pratique, Bass-Metz, c'est la question non ornementale. Il dit finalement ces propositions gigantesques, elles se sont entre guillemets perverties parce qu'on les a emmenées vers de l'ornemental. Comment, par exemple, cet exemple de Central Park peut-être inspirant ou matière à réflexion pour ce que vous faites aujourd'hui dans les villes ou dans les espaces publics où vous intervenez?
Oui, comme le dit Michel Devigne, c'est peut-être Homestead, il est très connu pour Central Park, mais c'est Minneapolis et Boston et Chicago, le système de parc qui sont l'invention réelle qu'il a fait. Et je pense que ce qui est inspirant, c'est qu'il n'essaye pas de copier une image de la nature. Il essaye de copier la logique de la nature. Quand justement, il dans le système de parcs, c'est le chain of lakes, c'est l'ensemble des lacs qui créent une sorte de d'écosystème. Et je pense que cette parce qu'on est trop dans une sorte de copie de quelque chose. Aujourd'hui, on nous demande de produire une image pour voir à quoi va ressembler ce qu'on fait. Dans l'architecture, on le fait trop souvent d'ailleurs, parce que dans son temps, dans une publication, on ne sait même plus si c'est une image ou déjà la réalité. Moi, à mon avis, si si on a déjà l'image de ce qu'on va construire, si on a déjà à quoi ça va ressembler, ça n'a plus la peine de le construire. J'exagère, mais je veux dire, il n'y a plus de surprise. On peut juste voir si oui ou non on a bien réalisé l'image qu'on avait en tête. Ce qu'on essaie de faire dans le paysage, c'est de comprendre la logique de la nature, de reproduire cette logique qui va ensuite produire une image qu'on ne gère pas complètement et qui de toute façon n'est jamais fixe parce qu'il y a des saisons, parce que tous les végétaux vont pousser, un jour ils vont mourir. Je veux dire, on n'est pas dans une image, on est dans une logique qui produit des images. Et ça, je pense que Olmsted l'avait compris profondément. Et du coup, il est absolument pas dans l'ornemental, il est dans l'organisation de l'espace avec des éléments de la nature.
Il y a à Bordeaux, parmi les choses que l'on peut voir et dont vous êtes le curateur, des vidéos, notamment deux films qui s'intéressent à Singapour et qui s'intéressent à Hong Kong. Et quand j'ai en tête les images qui sont comme des sortes de carnet de notes visuelles, en fait, fait à partir de ces espaces à Singapour et à Hong Kong, on voit bien qu'il y a une recherche dans l'œil de ce que le paysage peut induire comme organisation de la ville, et en même temps vice versa, comme s'il y avait une progressive indistinction, Bass-Metz.
En fait, on a fait ce film avec Christian Barani, et j'avais choisi Hong Kong et Singapour parce que c'est peut-être deux antipodes de ce que peut être le projet de paysage. À Hong Kong, c'est un projet qui a commencé sous les Anglais il y a très longtemps. Aujourd'hui, le prix au mètre carré, c'est le plus cher au monde à Hong Kong. Sauf que tous ces gratte-ciels sont construits au pied des montagnes qui sont friables et qui sont en train de tomber. Il y a plein d'avalanches dans les années 70. Et du coup, ils ont mis en place une sorte de programme extraordinaire, où tous les ans, il dépense 300 millions de dollars pour conforter la montagne. Et du coup, j'étais à Hong Kong il y a 4 ans, parce que j'avais fait un projet là-bas. Du coup, je me suis pas mal baladé dans les montagnes. Il y avait quelque chose, mais c'est pas une vraie nature, en fait. Et du coup, quand on a fait la recherche et le film, on s'est rendu compte que c'est vraiment une
nature consolidée,
artificielle. Elle est là pour capter l'eau pluviale, pour avoir de l'eau potable. Elle est là pour conforter les montagnes. Et de plus en plus, on comprend que c'est cette idée de cette nature subtropicale idyllique a complètement été changée par l'homme. Et que quelque part, c'est une sorte de C'est la mythe de Sisyphe. Un jour, la montagne, elle va quand même descendre, sauf qu'aujourd'hui, non. Et du coup, on l'a voulu comme exemple, mais on a compris en le faisant que c'est un contre-exemple. Et du coup, le film avec Christian Barani, on s'est dit, on va commencer dans le jungle même, dans le lieu le plus intouché par l'homme qu'on a trouvé, et en se baladant. Et on a pris 10 jours de balade. Et du coup, il n'y avait plus de chemin. On se baladait dans ce jungle. Et on comprenait seulement qu'il y avait une canalisation, il y avait un réservoir d'eau. Et du coup, le film s'arrête juste qu'on quitte la jungle et qu'on voit la ville autour. Mais on ne rentre pas dans la ville, en fait. Mais du coup, on fait montrer que cette artificialisation. Merci, de la nature permet la ville autour.
Mais ce qui dit quand même. Enfin, ce qui est, je trouve, le génie de mettre en lumière ce que nous avons fait de tout ça. Quand vous dites « c'est l'artificialisation de la nature qui permet la ville », on se dit « tout ça pour ça ». Quand le film s'arrête, on se dit « alors tout ça pour ça ? Alors on a fait ça pour ça ?» Ce qui nous fait porter un regard assez étrange, je trouve, sur l'urbanisation à Hong Kong.
Ah, mais ça c'était le but.
Quel sacrifice, je trouve.
Oui, quelle folie, et mais on peut dire la même chose de Venise, hein, quelle folie de construire une ville dans les marais. Je pense que c'est aussi la force de l'homme d'arriver à faire ça, sauf qu'il le fait presque sans le savoir. Dans le film, on essaye de montrer, voilà ce qu'on a fait, et sans jugement.
Juste sans morale.
Oui, parce qu'il n'y a pas de morale. Bon, le moral viendra après, mais dans le film, on a juste voulu révéler ces paysages que j'appelle augmentés, comme une réalité augmentée. Ce n'est plus un paysage naturel, mais c'est un paysage qu'on a augmenté, nous, pour nos besoins.
Quand vous dites que c'est un exemple qui est extrêmement différent de Singapour, en quoi ? Qu'est-ce qu'on peut observer à Singapour ? Presque ce sont deux films à regarder en miroir, d'une certaine manière.
Oui, en fait, à Singapour, dans les années 65, suite à l'indépendance de l'Angleterre, le Premier ministre, il s'est dit, mais en fait, il y a plein de gens qui viennent travailler à Singapour, qui partent ensuite. Parce que Singapour, il n'y avait aucune identité. Et lui, il s'est dit très clairement, on va forger une identité culturelle basée sur le paysage. Et au début, il avait emprunté les idées de Garden City, la ville-jardin développée par Ebenezer Howard en Angleterre. Et du coup, il a commencé un programme de plantation, de voir l'île de Singapour comme un jardin. Et de plus en plus, il a créé sa propre identité. Aujourd'hui, le logo officiel ou le slogan officiel de Singapour, c'est Singapore City in a Garden. Et toute l'île est conçue comme un jardin. Du coup, le même principe qu'à Hong Kong, on essaie de stocker le plus l'eau pluviale pour produire de l'eau potable. Mais il y a une sorte de mélange entre nature ou entre paysage et bâti qui est partout. Et du coup, quand on se balade à Singapour, la nature est partout. Et les gens qu'on a interviewés, ils nous disaient qu'il y avait des raccoons sur leur terrasse. Il y a une sorte de vivre ensemble avec les animaux qui est très différent parce que la nature est partout et qu'on comprend que c'est ça l'identité et la qualité essentielle de Singapour.
Ce qui est peut-être augmenté pour qui s'est déjà promené à Singapour en période de mousson par la question climatique, c'est qu'en effet, cette indistinction-là, elle est aussi là parce que la nature parle fort par la pluie, par la chaleur qui peut être excessive. Et comme si d'un seul coup, tout bâti qu'il soit, quand bien même, bon alors on peut y échapper en rentrant dans un bâtiment où c'est très climatisé, mais sinon quand on est dehors, c'est aussi ça, cette indistinction, parce que la nature, elle est là jusqu'à la peau.
Ouais. Et en plus, comme c'est une île, la nécessité produit toujours une sorte d'inventivité. Comme c'est une île, ils se sont dit, mais au lieu de faire des bassins de rétention d'eau non accessibles, ils ont conçu leur parc avec différents niveaux. Et du coup, en dehors de grands moments de pluie, tout le parc est accessible. Quand il pleut, ils ont des petits gyrophares. Oui, oui, oui. Et du coup, on peut rester sur les chemins qui sont construits sur digues. Mais du coup, il y a deux tiers du parc qui s'inonde. Tandis que chez nous, en Europe, on a la nature protégée, on a les bassins de rétention, on a le parc public.
Et chacun chez soi.
Voilà. Et du coup, le fait d'être sur une île, évidemment, il faut être plus malin avec l'espace parce qu'il est plus limité. Mais ils ont créé une sorte de superposition de services écologiques et du coup une sorte de temporalité de l'usage du parc qui est beaucoup plus intelligent que justement de sectoriser tous ces besoins. Thank you.
deuxième équipe de bionautes entre aujourd'hui pour 10 mois dans l'éprouvette géante de l'Arizona baptisée Biosphère 2. L'idée du promoteur de cette serre, John Allen, est de créer la vie en autarcie, telle qu'elle existera peut-être un jour dans les colonies spatiales, pourquoi pas sur Mars. 4 femmes, 3 hommes, le plus vieux à 39 ans, le plus jeune 24 ans, vont recevoir la visite d'un médecin tous les 3 mois et seront accompagnés pour les 4 premiers mois d'un spécialiste en robotique. La première équipe était sortie en septembre et on avait rajouté de l'oxygène dans la biosphère pour éviter que les conditions deviennent invivables. La chaleur sous la serre a fait mourir des plantes et des animaux indispensables à l'équilibre biologique. Cette fois, pour empêcher la multiplication des cafards, on va rajouter quelques prédateurs, en plus des chauves-souris, 40 geckos, des gros lézards et 50 crapauds. La nourriture des humains, qui avait beaucoup maigri, consiste surtout en plantes, en riz, en fruits et en poissons. La condition pour faire partie de l'équipe étant de supporter un régime végétarien. Le site d'Oracle, dans l'Arizona, près de Tucson, est déjà un grand rendez-vous touristique. À côté de la biosphère, il y a un hôtel, un restaurant, un magasin de souvenirs. On peut visiter les bionautes en les regardant à travers une vitre.
Cet extrait d'un journal d'information diffusé sur France Inter en 1991, Bas Metz, pour évoquer cette expérience de sphère, comme le disait le journaliste, biosphère 1 ou 2. Là, on est dans la deuxième expérience, on est en plein milieu dans le désert Arizona, et on parlait tout à l'heure avec vous de la notion de paysage comme une organisation. On est presque au paroxysme de cette définition, Bas Metz. Vous avez réalisé un film, êtes allé sur place. Pourquoi cette expérience vous passionne ?
En fait, quand j'étais enfant, je suivais le périple de un de ces 8 biosphériens, comme on les appelait, parce que c'était un Belge. Et du coup, chaque semaine, live, depuis la serre en Arizona, il racontait ce qui se passait. Du coup, c'était une sorte de mémoire d'enfance. Et quand je cherchais des lieux à filmer qui parlaient de paysages, je me suis dit, mais en fait, c'est le plus grand expériment de reproduire les biomes de la planète. Et le hasard fait bien les choses. J'ai rencontré quelqu'un qui était impliqué dans la construction de biosphère dans les années 80 et qui a organisé en fait une rencontre avec l'inventeur, John Allen, dont on parlait, qui a aujourd'hui 88 ans et qui est un génie. C'est un génie qui s'est posé les questions qu'on se pose aujourd'hui sur le changement climatique. Dans les années 70, il a dit la seule façon de comprendre la biosphère, et lui, il voulait créer une nouvelle science qui s'appelle biospherics. Il dit la seule façon de comprendre la biosphère, c'est de le construire. De le construire et de le faire marcher. Et du coup, il s'est dit, là où la science aujourd'hui est vraiment spécialisée dans une sorte de séparation des choses pour aller jusqu'au niveau atomaire et encore plus petit, il dit en fait, on ne connaît pas la relation entre l'océan et la forêt amazonienne. On ne connaît pas la relation entre les vents et le désert. On a du mal à le comprendre parce que c'est tellement grand. Mais il a dit c'est un système fermé par la gravité. Du coup, il s'est dit, si on reproduit les 5 biomes les plus importants de la planète, si on met des capteurs partout, on peut voir combien d'oxygène est produit par les plantes la nuit, si le ciel est couvert. Quelle influence sur la production d'oxygène, comment marche la photosynthèse. Et il a dit, il faut aussi mettre les hommes dedans, parce que les hommes font partie de la biosphère, d'ailleurs de plus en plus, parce que...
On agit beaucoup.
Oui, et on a nombreux. On était 4 milliards il y a 20 ans, là on est presque 8 milliards. Du coup, la science essaye toujours d'enlever l'homme de l'équation, mais lui il a dit, il faut faire une reproduction de la planète, Et faire des expérimentations. Et en fait, c'est un système hermétiquement fermé. Ça veut dire qu'il n'y a aucune interaction, sauf énergétique, avec les alentours. Ce qui veut dire que chaque pluie, chaque mouvement de l'air, chaque chose est reproduit. Et du coup, on arrive à comprendre comment ça marche. Ça veut dire qu'aussi, que dans la forêt subtropicale qu'ils ont construit, on peut diminuer l'apport en eau et voir quelles stratégies vont développer les plantes. Et du coup, c'est une sorte de laboratoire pour comprendre la planète.
Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure en début d'entretien, Basmet, c'est-à-dire ne pas oublier que l'échelle systémique, cette échelle un peu macro, nous permet d'avoir une compréhension des choses essentielles et d'échapper à l'échelle moyenne qui aplatit. Mais aussi, ça permet de pouvoir jouer sur des curseurs, vous le disiez à l'instant, ces scientifiques modifient la manière presque dont peut se comporter cette forêt ou ce fleuve, ce qui pour arriver avec votre propre travail et des créations paysagères, vous amène-vous à penser que c'est en agissant sur certains curseurs, et parfois de pas de beaucoup, qu'on peut modifier, par exemple, un espace public ?
Complètement. Et pas seulement modifier, mais aussi assumer une autre responsabilité. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'hommes sur la Terre. La 50% vit dans les métropoles. Il est évident que l'espace naturel diminue et on ne contrôle pas l'impact des changements climatiques. Du coup, je pense que le paysage ne peut pas se contenter d'être un décor. Il ne peut pas se contenter d'être juste un parc. Je pense que les projets de paysage, comme le faisait Homestead et comme le disait Michel Devigne, le projet de paysage doit s'interroger sur son ambition. Et l'espoir, c'est que, je pense que notre ambition pour le projet de paysage, c'est de mieux comprendre tous ces services écologiques que nous fournit la biosphère gratuitement et de reproduire cela dans les paysages qu'on sera obligé de créer pour rendre les métropoles vivables.
Au-delà de l'expérience folle, humainement et scientifiquement, de quoi vous a parlé Joe Allen ? On voit des petits bouts de cet entretien que vous reproduisez dans le film Biosphère 2. On peut imaginer que votre entretien a été beaucoup plus long que ces quelques minutes. Qu'est-ce qu'il tire, lui, de cette expérience-là, avec le recul ?
Je lui demandais, mais pourquoi vous l'avez fait ? Parce que c'était une opération...
C'est dingue. On voit, évidemment, pour reconstruire tout ce système dans lequel nous vivons,
des moyens... C'est paranoïque. Voilà. C'est des moyens, mais aussi une intelligence. Il avait les meilleurs scientifiques du monde. Il travaillait avec la NASA. C'était vraiment... Tout le monde lui disait, mais ça, jamais ça va marcher. Et ça, c'était très successful. Il y a 8 personnes qui ont vécu pendant 2 ans dans cette 1,3 hectare d'espace fermé. Et du coup, je me demandais s'il y avait une sorte d'agenda, s'il voulait prouver quelque chose.
Pourquoi faire ?
Oui, et lui, comme un vrai scientifique, il dit non, je voulais juste comprendre. Je dis, on comprend pas comment ça marche, il faut qu'on comprenne. Et lui, son espoir, c'était que d'autres universités ou d'autres nations allaient construire aussi sur 3, 4, 5, 6, 7, dans l'idée de beaucoup mieux maîtriser cette couche autour de la Terre qui permet la vie et qui est une sorte de recyclage sans fin. Et je pense qu'il a raison, il faut mieux la comprendre.
Quand vous travaillez, on a dit tout à l'heure, alors vous vous servez évidemment de connaissances architecturales, de connaissances du paysage, ça veut dire aussi que vous êtes obligé de travailler avec des scientifiques. Si vous voulez aller au plus près, basse-mètre, de ce genre de réglages infimes, quels qu'ils soient, ça veut dire que vous octroyez les services aussi de la science.
Absolument, et on travaille très souvent avec les universités, qui sont d'ailleurs très heureux de travailler avec nous parce que soudainement leurs connaissances sont appliquées. On travaille aussi beaucoup avec les artistes parce que justement travailler avec les artistes permet aussi de réfléchir autrement, parce que l'artiste il arrive à révéler un autre niveau de conscience et du coup entre les scientifiques et les artistes on essaye d'imaginer autrement le paysage et la mission qu'on nous confie est une sorte de point de départ pour imaginer ces paysages comme une organisation de l'ensemble.
Et on l'a entendu tout à l'heure, vous avez une très grande attention à ce qui se transforme, c'est-à-dire non seulement rien n'est figé dans ce que vous proposez, mais surtout vous êtes attentif à la manière dont ça évolue. Pour reprendre ce qu'on peut voir en ce moment à Bordeaux, dans ce hangar, vous disiez, ces forêts de pylônes, vous leur avez comme adjoint une autre forêt qui est une forêt d'arbres, mais ces arbres, ils vont avoir une vie future, laquelle ?
En fait, ces arbres-là, on les a achetés, ou la ville de Bordeaux les a achetés, pour transformer la Brazaligne, qui est un chemin de fer rive droite qui borde plein d'opérations immobilières qui sont en cours, de le transformer en promenade. Et du coup, on voulait déjà préfigurer avec ces plantations, ces 300 arbres, cette transformation. Une fois qu'on avait acheté ces arbres, on s'est dit, mais peut-être on peut les utiliser, on peut les faire transiter dans l'hangar 14, pour montrer aux visiteurs qu'un arbre vient d'une pépinière, qu'il est transporté avec un camion, qui ensuite il est planté, mais aussi montrer la faisabilité du projet de paysage. En même temps, comme je disais, le bâtiment est tellement grand, le fait de révéler son identité paysagère permet d'illustrer cette approche, même dans la scénographie.
Ça veut dire aussi que quand vous dites montrer la faisabilité du paysage, c'est dire que quand il y a faisabilité, il y a la question politique qui n'est pas très très loin, la question économique aussi, financière et décisionnelle. Une autre façon pour vous, Basmets, de dire c'est possible, c'est-à-dire on les met là, on les peut les mettre ailleurs. Tout ça est une question de choix. C'est aussi ça que dit votre installation ?
Complètement. Et c'est aussi de dire que on peut faire travailler ou faire collaborer les services d'une ville qui ont l'habitude de surtout
de s'occuper segmenter de encore.
Oui, c'est ce qui est normal, mais que quand on arrive à une autre collaboration, on arrive à d'autres résultats.
Quand vous avez à discuter avec des commanditaires, quels qu'ils soient, vous avez l'impression que cette possibilité qui existe dans les espaces et la possibilité de les révéler, c'est quelque chose qui est facile à faire entendre ?
Ça dépend de la situation, mais quelque part notre approche de montrer couche par couche, de créer une sorte de narrative et de montrer les possibilités, les gens comprennent cette narrative.
Ça passe par un récit toujours,
oui,
comme une
oui.
forme de récit ?
On avait fait un petit livre qu'on avait appelé Landscape Stories, ou ça se traduit pas très bien en français, l'histoire
de paysage.
Oui, mais il y a cette double notion d'histoire. Mais du coup, pour moi, chaque projet est une histoire, est une narration, est une parce que c'est une imagination d'une réalité, c'est une it's a story, c'est une histoire.
Un matériau en fait utilisé qu'un lieu dans lequel, bien sûr c'est un lieu dans lequel on va, mais c'est un lieu mobile, et à ce titre c'est pas vraiment un musée, c'est un lieu qui change, se renouvelle, c'est un lieu que l'on traverse, c'est un lieu de promenade ou de voyage, c'est un lieu qui n'offre aucune constante de leur point de vue, et donc il est difficile d'en faire un nouveau musée, d'autant que s'il y a une importance accordée au paysage, elle ne tient précisément qu'à ce que ce paysage est un paysage de mémoire, je dirais. De la même façon que l'on, pour voir les monochromes flottants de Torel, il faut traverser des chambres noires, obscures, de la même façon pour voir les œuvres d'une Land Art, on doit traverser des paysages, et cette mise en condition du paysage est importante et nécessaire, mais elle n'est pas la fin même de ces sculptures.
On entendait la voix de Gilles Tibérien parler du paysage comme un paysage en mémoire, un paysage en arrière que l'on doit traverser avant d'arriver à l'œuvre, dans le cas du Land Art, puisque c'est ce dont il parlait. En écoutant cette archive, moi ça me renvoyait à quelque chose que peut-être vous n'allez pas considérer en effet comme une œuvre, qui est le mémorial que vous avez fait pour Bruxelles, et les espaces que l'on doit traverser avant que d'arriver dans l'espace que vous avez conçu. Est-ce que d'une part vous pouvez essayer de nous le décrire, ce mémorial ?
Le mémorial, il est fait pour commémorer les 32 victimes mortelles des attentats à Bruxelles, mais aussi tous les gens blessés. Et du coup, on avait décidé de planter 32 arbres en mémoire de ces 32 personnes dans la forêt de Soignes, qui est juste à côté de Bruxelles. C'était l'idée du ministre Frémaux, ce que je trouve une très belle idée, mais, et je lui disais, mais comment vous allez planter 32 arbres dans une forêt? En plus, une forêt de hêtres qui font facilement 30 mètres, l'arbre qu'on va planter, il aura 6, 8 mètres maximum. Comment planter un arbre dans une forêt? Et elle m'avait donné carte blanche, et du coup, on a arpenté la forêt. En fait, c'est un peu ma forêt de ma jeunesse, hein. Mes parents habitent juste à côté. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps de redécouvrir cette forêt, de trouver le lieu pour créer ce mémorial. Et on a trouvé une clairière naturelle, parce qu'on m'avait dit que je pouvais couper des arbres, tout ça, mais je voulais pas couper un arbre pour planter un autre, ça me semble un peu étrange. Et du coup, on a trouvé cette clairière, on a planté les arbres d'une forme circulaire, comme à la distance de deux personnes qui se tiennent la main. Comme si les troncs des arbres se tiennent la main et qui créent une sorte de cercle, qu'ils découpent en fait un cercle dans le ciel. Une sorte de James Turrell naturel. Et à l'intérieur, on a mis un banc en pierre bleue. La pierre bleue, c'est la pierre qu'on utilise depuis des siècles pour les tombes en Belgique. Et du coup, on a fait 32 blocs de 800 kilos chaque bloc, parfaitement taillé pour créer ce cercle. Il est parfaitement horizontal et il révèle l'inclination ou la topographie de la forêt. Et du coup, on l'a mis pas à côté d'une route ni à côté d'un parking, mais à 15 minutes d'un tout petit parking. Et du coup, il faut descendre dans la forêt. Il faut même prendre un petit pont. J'aimais bien le pont parce que
on passe dans un autre monde.
Oui, comme le Styx, en fait. On va dans le monde des ombres, des morts. Et puis après, il faut remonter. Et puis on découvre cette clairière. C'est très émouvant, en fait. C'est très...
Ce qui me fait dire, pour faire écho à l'archive, que presque votre proposition se mette dans ce cas-là de mémorial, c'est que le mémorial soit aussi la promenade. Que finalement, on laisse sa voiture, ce qu'on veut dans le parking, et que se souvenir ou rendre hommage, c'est aussi marcher les 15 minutes, passer le pont et arriver dans la clairière.
Absolument, absolument. Et c'est vraiment une sorte de voyage mental, parce que on traverse différents paysages, on remonte, et ces 10 minutes permettent de quitter le monde vivant, quelque part, et de découvrir ce mémorial. Et en plus, on n'a pas mis les noms dans la pierre. Du coup, c'est un vrai banc. Et moi, je veux que les gens s'assoient sur ce banc, entouré par ces arbres. Et c'est vraiment un lieu de recueillement et de contemplation. Vraiment un lieu de méditation. On a beaucoup parlé avec les associations des victimes, qui disaient aussi, nous, on veut pas une plaque dans la ville, mais on veut un lieu où on peut aller tout seul, où on peut être seul. Et c'est ce qu'on a essayé de créer.
On a beaucoup parlé pendant cette heure d'indistinction entre le bâti, le paysage, la nature, le construit. Comment est-ce que vous pensez votre travail, justement, à la frontière de l'art? Et vous citiez Turrell, mais on peut aussi parler d'autres artistes du Land Art auxquels on peut complètement faire référence lorsqu'on regarde certains de vos travaux.
Je pense que ce qu'on a en commun, c'est qu'on essaye de révéler quelque chose qui est là, mais qu'on n'a pas encore vu. Et j'aime beaucoup la citation de Marcel Duchamp, qui disait l'invisible est le visible qui n'est pas encore aperçu. Et par cette, pour moi, chaque projet doit être une découverte. On n'essaye pas de planter des arbres ou de mettre un banc. On essaye de comprendre ce lieu et de révéler son devenir, en fait.
Chaque projet doit être une découverte, et vous me disiez pendant la musique, il faut parler de la 11. Alors moi, je ne le connais pas, ce projet de la 11, mais il vous a permis de comprendre quoi et qu'est-ce que c'est?
En fait, la 11, c'est le plus grand projet de la Belgique des dernières 20 ans. C'est une autoroute de 12 kilomètres, et c'est la première fois que le consortium avait l'obligation d'avoir un paysagiste dans son équipe. Et du coup, pendant 2 ans, il y avait 5 équipes en lice pour ce concours. Et c'est une autoroute qui relie Bruges avec Knokke, et qui quelque part relie le grand port de Zeebruges avec le port d'Anvers. Et il est construit, parce qu'on l'a inauguré fin août, dans le paysage de Polder. Et le paysage de Polder, c'est un paysage man-made, fait par l'homme, gagné sur l'eau, avec des digues, avec des plantations, avec des canaux. Un vrai paysage culturel qu'on travaille ou qu'on construit depuis 1000 ans. Et du coup, dès le début, nous, on a dit, parce qu'il y avait une sorte de projet de référence où on utilisait les végétaux pour cacher cette vilaine autoroute. C'est ce qui est compréhensible, mais nous, on a dit, mais non, le paysage de Polder, c'est un paysage fait par l'homme. Chaque arbre a été planté par l'homme, les canaux ont été creusés par l'homme. On a fait une sorte de lecture de toutes les interventions qu'a fait l'homme les derniers 1000 ans.
Comme une sorte d'inventaire.
Un inventaire. On avait dit, on va utiliser cet inventaire pour accompagner l'autoroute et on va pas camoufler l'autoroute avec les végétaux. On va utiliser le projet de l'autoroute pour créer du paysage. Il y aura plus de paysage après qu'avant. Et du coup, on a planté 5000 arbres. Et on s'est dit, comme à l'époque des canaux, on plantait des 4 alignements, on va planter 4 alignements. Et on a quelque part renforcé le projet de paysage à travers la construction de l'autoroute.
En n'ayant pas honte de l'action humaine et peut-être en essayant, non pas de la camoufler, mais de la révéler encore une fois. C'est-à-dire en essayant de dire, les arbres que vous voyez là, ce ne sont pas la nature, ils n'ont jamais été entre guillemets la nature. Il faut arrêter de se mentir là-dessus.
Oui, avant il y avait de l'eau. Et à la fin, et ça c'était vraiment quelque chose que je voulais faire moi, j'ai produit une image basée sur une peinture de Van Ruysdael. Et du coup, on a pris une image Google Earth et on a mis l'autoroute dedans, mais parfaitement avec le logiciel 3D. Etc. Mais on a l'impression de regarder un tableau du XVIe siècle, avec le ciel menaçant. Et du coup, on a produit 3-4 peintures, presque comme ça, où on se dit, mais l'autoroute a toujours existé.
Par les temps qui courent, où allez-vous marcher ?
Moi, j'adore me balader dans la nature où il n'y a pas de signe de l'homme. J'adore aller justement dans la forêt de Soignes quand je suis à Bruxelles ou dans les parcs nationaux. J'adore aller dans le désert. J'adore aller dans les lieux où justement il n'y a pas de référence, il n'y a pas d'échelle. Et c'est rare de nos jours, mais j'adore ce moment-là où seulement il y a une sorte de confusion, on ne sait pas ce qu'on voit en fait. Et je pense que dans les projets, on essaie toujours de faire référence à ces images-là. Chaque projet, même dans une ville, il fait toujours référence à une sorte de d'image, peut-être imaginaire, d'une nature.
Par les temps qui courent, dans quelle direction regardez-vous ?
Je dirais vers le nord, mais sans savoir pourquoi.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h, quand vous voulez, sur franceculture.fr, la page de l'émission, ou sur Twitter, où je réponds @MarieRicheux, tout attaché.